mariage et rappelle que sa fin principale est la procréation. Mais ces quelques lignes sont insérées dans un ensemble de paragraphes consacrés au travail, à la propriété privée, au patrimoine familial et au juste salaire. Cette prise en compte de la réalité économique et sociale de la famille constitue un aspect méconnu du discours de l'Église et lui confère une actualité étonnante, comme je vous le disais tout à l'heure. Les liens entre famille, travail et repos, déjà à la fin du XIXe siècle, le pape disait « attention, veillons à cet équilibre ». On parle aujourd'hui de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. On entend ça partout dans les médias et c'est sûrement en connexion avec tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc ce lien entre famille, travail et repos se retrouve dans presque tous les textes de la doctrine sociale de l'Église. Ce n'est qu'à partir des années 60, avec l'apparition de la contraception artificielle, puis la contestation du modèle familial traditionnel, que des questions de morale sexuelle croisent le discours social et que l'Église insiste sur les fondements du mariage. D'ailleurs, cette problématique éclipse le réalisme économique et social dont l'Église continue néanmoins à faire preuve. Sous-entendu, les médias vont se focaliser sur « alors, le pape est-il d'accord ou non avec le préservatif ?» Et on en oublie tout le reste. Voilà. Or, l'enseignement, il concerne tous nos lieux de vie, tout ce qu'on est engagé à vivre. Alors, je suis désolé parce que je ne savais pas s'il fallait vous donner un document. D'autre part, j'ai eu une semaine un peu chargée. Voilà, donc hier j'étais à Lyon, je suis rentré très tard et je n'ai pas eu le temps de vous faire un tirage. Mais bon, je vais essayer d'illustrer. Et puis si vous avez marre, si vous en avez marre, posez des questions, ce sera aussi interactif. Alors, en fait, ce chapitre 5 de ce gros livre-là, il s'articule autour de 5 grandes parties. Ça s'échelonne du numéro 209 jusqu'au numéro 254. Donc vous voyez, il y en a pas mal de rubriques. Et donc, dans les cinq grandes parties, la première s'arrête sur la famille, première société naturelle. Alors j'en lirai quelques extraits parce que je trouve ça vraiment très bien formulé, très très riche. La seconde grande partie, c'est autour de mariage, fondement de la famille. La troisième, c'est la subjectivité sociale de la famille. Comment, finalement, la famille est réellement un sujet à considérer en tant que tel et qui précède la notion de société. Il n'y a pas de société sans famille. Même si, dans certains discours ambiants, on aimerait nous faire croire le contraire. Voilà, il ne faut pas inverser les choses, et c'est très très clairement dit. Dans la quatrième grande partie, on a tout un aspect sur, même s'il est plus court, parce qu'il n'y a que deux numéros, mais ils sont très, enfin deux numéros, deux sous-parties, et puis il y a cinq numéros en tout, c'est la famille protagoniste de la vie sociale, et enfin, et non des moindres, la cinquième grande partie traite de la société au service de la famille. Voilà, dans le bon ordre. Alors je vais commencer par vous lire le premier numéro, le 209, enfin le premier numéro qui me concerne aujourd'hui. Voilà ce qu'on y lit. L'importance et le caractère central de la famille, pour la personne et pour la société, sont maintes fois soulignés dans les Saintes Écritures. Alors là, il y a plusieurs citations, je vous en lis quelques-unes. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », dit la Genèse au chapitre 2, verset 18. D'ailleurs, les tout premiers textes qui racontent la création de l'homme font déjà ressortir la façon dont, dans le dessein de Dieu, le couple constitue l'expression première de la communion des personnes. la communion des personnes. Ève est créée semblable à Adam, comme celle qui, dans son altérité, le complète pour former avec lui une seule chair. Alors ça s'est repris plusieurs fois et Jésus, dans Matthieu, chapitre 19, va le redire. Et c'est un passage qu'on lit très très souvent aux célébrations de mariage. En même temps, tous deux sont engagés dans la tâche de la procréation qui fait d'eux des collaborateurs du Créateur, puisqu'on entend la belle citation « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre », rappelez-vous. Genèse chapitre 1, verset 28. La famille apparaît dans le dessein du Créateur comme le lieu premier d'humanisation. Alors ça, ça va traverser tout le grand chapitre 5. Donc, premier lieu d'humanisation de la personne et de la société. On parle aussi du berceau de la vie et de l'amour. C'est très beau, hein ? Ça, c'est le numéro 209. Au numéro 210, on lit ceci. Dans la famille, on apprend à connaître l'amour et la fidélité du Seigneur et la nécessité d'y correspondre. Alors là, il y a plein de citations, l'Exode, Deutéronome, etc. Les enfants apprennent les premières leçons, les plus décisives, de la sagesse pratique à laquelle sont liées les vertus. C'est pour cela que le Seigneur se fait garant de l'amour et de la fidélité conjugale. Alors, on fait une allusion à Jésus, qui lui aussi a grandi dans une famille. Jésus naquit et vécut au sein d'une famille concrète, en accueillant toutes ses caractéristiques spécifiques et conféra une dignité sublime à l'institution du mariage, le constituant comme sacrement de la nouvelle alliance. Dans cette perspective, le couple trouve toute sa dignité et la famille sa solidité propre. Au numéro 211, éclairé par la lumière du message biblique, l'Église considère la famille comme la première société naturelle, titulaire de droits propres et originels, et la met au centre de la vie sociale. Reléguer la famille à un rôle subalterne et secondaire en l'écartant de la place qui lui revient dans la société signifie causer un grave dommage à la croissance authentique du corps social tout entier. Ça, c'est Jean-Paul II qui dit ça. La lettre aux familles, à la suite de son voyage à Sainte-Anne-d'Auray. En effet, la famille qui naît de l'intime communion de vie et d'amour conjugal fondée sur le mariage entre un homme et une femme possède une dimension sociale, spécifique et originelle en tant que lieu premier de relations interpersonnelles, c'est-à-dire première cellule vitale de la société. Elle est une institution divine qui constitue le fondement de la vie des personnes comme prototype de tout ordre social. Un modèle, quoi. Hein, voilà. Alors ensuite, je ne vais pas tout lire, on a un petit aspect sur l'importance de la famille pour l'individu, pour la personne. Puis après, l'importance de la famille pour l'ensemble des personnes, c'est-à-dire la société. Et on en arrive au grand chapitre 2, enfin à la deuxième grande partie de ce chapitre 5, hein, c'est sur le mariage, fondement de la famille, et on va y développer, bien entendu, plusieurs chapitres, plusieurs numéros sur la valeur du mariage. Ensuite, il y a trois numéros sur le sacrement du mariage, et puis on va arriver au troisième grand domaine de ce chapitre 5 sur l'aspect subjectivité sociale de la famille. Voilà. Alors, je reviendrai à ça tout à l'heure. Je reprends, parce que dans son propos, là, Monique Beaujard, qui était donc directrice du service national de la famille et société à la conférence des évêques, hein, elle organise un peu... En croisant des choses, elle va prendre plutôt la fin et puis elle va revenir sur ce que je disais sur la société là. Alors voilà ce qu'elle dit. C'est la Bohème Exercens, c'est-à-dire un des grands textes sur le rôle du travail. qui souligne le plus clairement ce lien intime entre réalité économique et rôle social de la famille. Je fais une longue citation de cette lettre. Le travail est le fondement sur lequel s'édifie la famille, la vie familiale, qui est un droit naturel et une vocation pour l'homme. Donc le travail, ces deux sphères de valeur, l'une liée au travail, l'autre dérivant du caractère familial de la vie humaine, doivent s'unir et s'influencer de façon correcte. Le travail est, d'une certaine manière, la condition qui rend possible la fondation d'une famille, puisque celle-ci exige les moyens de subsistance que l'homme acquiert normalement par le travail. Sous-entendu, il faut de l'argent pour vivre, quoi. Sinon c'est pas possible, hein, pour avoir une vie digne de ce nom-là. Le travail et l'ardeur au travail conditionnent aussi tout le processus d'éducation dans la famille. Précisément parce que chacun devient homme, et femme, hein, entre autres, par le travail. La réalité économique conditionne tout d'abord l'existence d'une vie familiale digne de ce nom, puis la façon dont la famille va pouvoir assumer son rôle social à travers l'éducation et la création de liens. Ce rôle social est primordial pour la société. Aussi, la famille doit reposer sur un engagement fort de la part des époux et être soutenue par les pouvoirs publics. Alors attention, quand on entend ça, nous, on pense à notre sphère franco-française, hein. Ça, c'est écrit pour le monde entier, hein, pour les familles qui sont en Afrique, pour les familles qui sont en Australie, pour les familles... Voilà, hein, c'est pour le monde entier. Chaque fois que le pape, avec tous ses conseils, pense qu'il faut envoyer un message parce qu'il pense qu'il y a une orientation particulière, parce qu'il observe qu'il y a, je ne sais pas, des souffrances, des dérives, etc., ben, il redonne un axe, hein, et après, chaque conférence épiscopale essaye aussi de s'approprier, puis après, chaque évêque, là où il est, il se dit, moi, dans mon diocèse, je sens qu'il faudrait axer peut-être le travail, hein, l'orientation, dans cette direction-là. Voilà donc le cœur du discours social de l'Église concernant la famille. Hein ? Alors, tout ce que j'ai dit avant, bien sûr, prend appui sur les Saintes Écritures, puis l'enseignement de Jésus, etc. Mais on voit bien qu'on ne peut pas rêver d'une famille idéale si on n'a pas les moyens de survivre, si on n'a pas de quoi se nourrir, se loger, hein. Voilà. Et aujourd'hui, le CCFD, en ce cinquième dimanche de Carême, nous le rappelle, hein, de manière évidemment criante. Alors, la famille, une réalité économique, c'est pas très long, et je vais vous faire un survol historique, finalement, hein, du premier texte Rerum Novarum en 1891, hein, il y a quelques jours quand même, jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'au pape François, et beaucoup de citations aussi de Jean-Paul II. La famille ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, ça c'est clair. La misère ou des conditions trop dures d'existence provoquent, malheureusement, hein, sa désintégration et l'empêche de jouer son rôle. Aussi, le discours social de l'Église vise-t-il tout d'abord de meilleures conditions de vie pour les familles pauvres. Cela passe par un juste salaire et l'accès à la propriété privée. Alors c'est intéressant de voir cette maturation, comme je disais tout à l'heure, hein, sur les conditions de vie, hein, comment l'Église pose un regard et elle invite évidemment chacun de nous à prendre une part pour permettre, hein, d'accéder à un meilleur niveau de vie. Tout travailleur doit percevoir un juste salaire lui permettant de vivre et de faire vivre sa famille. Cette exigence résonne de façon constante dans l'enseignement des papes, de Rerum Novarum en 1891 à Caritas in Veritate, de Benoît XVI en 2009. les textes, prennent la mesure de la difficulté d'obtenir ce qui paraît une exigence élémentaire de justice sociale. À la fin du XIXe, déjà, le pape Léon XIII dénonce la tentation du patron d'exploiter la misère humaine. Donc c'est au numéro 17 de Rerum Novarum. Et souligne le risque pour le travailleur d'accepter une rémunération trop faible, du devoir de conserver l'existence. Alors, il y a une citation, hein, « découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. » Donc ça, c'est Léon XIII, hein, donc dans « Rerum Novarum » au numéro 34. Il légitime en conséquence l'intervention des syndicats ou de l'État pour sauvegarder les intérêts des travailleurs. Il y a une protection, quoi, hein, à assurer. On est à la fin du XIXe. Pie XI développera en 1931 les conditions de détermination du juste salaire par rapport à trois impératifs. 1. La subsistance de l'ouvrier et de sa famille. 2. La situation de l'entreprise. Et 3. Et les exigences du bien commun. Voilà. Les mêmes exigences seront reprises par Pie XI en 1937, 6 ans après. Dans Divini Redemptoris, donc c'est au numéro 52, entre autres, et Pie XII aussi en 1941, dans Radio Message, donc au numéro 19, hein, il va dire des choses aussi. Et Jean-Paul II, Jean 23 d'abord, en 1961, va rappeler ceci, je vous le lis, dans Mater et Magistrat, au numéro 71. La fixation du taux de salaire ne peut être laissée à la libre concurrence, ni à l'arbitraire des puissants, mais doit se faire conformément à la justice et à l'équité. Les travailleurs doivent recevoir un salaire suffisant pour mener une vie digne de l'homme et subvenir à leur charge de famille. Voilà, on ne s'éloigne pas du tout, hein, de tout ce qu'on a lancé au début. Là. Il reprend les mêmes critères que Pie XI, mentionnant en particulier, dans les exigences du bien commun, celle du plein emploi. Des affirmations équivalentes se trouvent encore sous la plume de Jean XXIII en 1963 dans « Pacem in Terris », et aussi, bien entendu, lors du Concile Vatican II en 1965, dans Gaudium et Spes, au numéro 67 en particulier, au chapitre 2, ou de Jean-Paul II en 81, où donc il y a deux moments en 81 et en 91, dans Santissimus Annus, c'est un grand, grand texte. Et finalement, je saute assez vite, hein, Benoît XVI développera en 2009 ce que signifie un travail digne. Alors voilà ce qu'il dit dans Caritas in Veritate au numéro 63. Un travail qui donne les moyens de pourvoir aux nécessités de la famille et de scolariser les enfants sans que ceux-ci ne soient obligés eux-mêmes de travailler. Donc ça c'est pour préserver, hein, bien sûr, le travail des enfants du travail, quoi. Et on voit bien que dans certains pays, hélas, hein, des enfants qui travaillent à la mine, ils ont 9 ans. Hein. Voilà. Et qui laisse, je continue la citation, et qui laisse un temps suffisant pour retrouver ses propres racines au niveau personnel, familial et spirituel. Les trois dimensions vraiment essentielles que l'Église rappelle toujours. Mais le réalisme économique de l'Église, c'est fin de citation, c'est une transition, le réalisme économique de l'Église ne s'arrête pas à la demande du juste salaire. L'Église insiste aussi, et de façon plus surprenante pour nous aujourd'hui, sur l'importance privée pour la famille. Alors, je développe cette partie-là. Les premiers textes du discours social présentent la partie privée comme un garant contre les aléas de la vie à une époque où il n'y avait pas de système d'assurance sociale. Ainsi, Rerum Novarum, au chapitre 10, va dire cette citation. La nature impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants. Un peu plus loin, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine qui les aide à se défendre dans la périlleuse traversée de la vie contre toutes les surprises de la mauvaise fortune. Or, il ne pourra leur créer ce patrimoine que par l'acquisition et la possession de biens permanents et productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage. Un peu plus loin, l'encyclique Rerum Novarum plaide pour un développement de l'épargne et de l'esprit de propriété dans les masses populaires pour réduire les inégalités sociales. Entre autres, au chapitre 35, on développe ça. Cette préoccupation est reprise dans Quadragesimo Anno, qui exprime le souhait que les ouvriers, citation, accroissent par l'épargne un patrimoine qui, sagement administré, les mettra à même de faire face plus aisément et plus sûrement à leurs charges familiales. Ainsi, ils se délivreront de la vie d'incertitude qui est le sort du prolétariat. Ils seront armés contre les surprises du sort et ils en porteront, en quittant ce monde, la confiance d'avoir pourvu, en une certaine mesure, aux besoins de ceux qui leur survivent ici-bas. Voilà, fin de citation, c'était le numéro 68. L'apparition des systèmes d'assurance sociale va diminuer, dans certains pays, l'incertitude des familles. Ses membres sont encouragés par l'Église, qui continue à défendre l'importance de la propriété privée comme moyen de lutter contre la pauvreté, comme garant de la dignité et de la liberté de l'homme, de la stabilité familiale et de la paix sociale, à condition d'être accessible au plus grand nombre. L'Église insiste sur le lien entre propriété privée et liberté. Alors, je vais vous citer deux extraits. La propriété privée ou un certain pouvoir sur les biens extérieurs assure à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale. Il faut les regarder comme le prolongement de la liberté humaine. Enfin, en stimulant l'exercice de la responsabilité, il constitue l'une des conditions des libertés civiles. Alors, je continue, l'encyclique prend aussi soin de rappeler que la propriété n'est pas un droit absolu. Alors, autre citation, de par sa nature même, la propriété privée a aussi un caractère social fondé dans la loi de commune destination des biens. Voilà. Cette insistance sur les aspects matériels rend l'enseignement de l'Église extrêmement actuel. Notre société découvre en effet les conséquences économiques de l'instabilité conjugale et doit faire face à de nouvelles pauvretés qui apparaissent là où les solidarités familiales font défaut. Par exemple, les familles monoparentales. Cette fragilité économique hypothèque la capacité des familles à jouer leur rôle social indispensable. Alors, je vais développer une partie sur la famille, un rôle social, que l'on retrouve dans le chapitre 5 de ce beau livre. J'y reviendrai après. Enfin, c'est la même chose, mais dit autrement. Les premiers textes du discours social ne s'attardent pas sur la fonction la plus évidente de la famille. Elle assurait les apprentissages fondamentaux de la vie et se situait au cœur d'un réseau social qui n'avait rien de virtuel. Mais avec la montée de l'individualisme et la contestation du modèle familial traditionnel, les textes, à partir des années 60, mettent davantage en lumière ces rapports et ces apports sociaux. En 1965, le Concile Vatican II, évidemment, va parler de plein de thèmes, mais entre autres, celui de la famille, en disant que c'est une source de vie sociale. C'est la source de la vie sociale. Hein, on voit ça au numéro 32. Hein. Alors, je continue. Et comme une école d'enrichissement humain. Et le Concile souligne l'apprentissage du vivre ensemble qu'elle assure, donc la famille, en tant que lieu de rencontre de plusieurs générations qui s'aident mutuellement à acquérir une sagesse plus étendue et qui veille aussi à harmoniser les droits de la personne avec les autres exigences de la vie sociale. L'Église entend aussi la contestation dont la famille traditionnelle fait l'objet et l'aspiration à plus de liberté personnelle. Vous rappelez, hein, c'est 68 qui se prépare. Et en 1967, Paul VI va indiquer une orientation. Il écrit ceci dans Populorum Progressio, hein, numéro 36. L'homme n'est lui-même que dans son milieu social, où la famille joue un rôle primordial. Celui-ci a pu être excessif, selon les temps et les lieux, lorsqu'il s'est exercé au détriment des libertés fondamentales de la personne. Alors on voit apparaître des tensions, évidemment, et la tension entre le désir d'une liberté personnelle plus grande et les contraintes de la vie de famille vont en changer la perception. Aujourd'hui, elle est perçue comme un réseau au service de l'épanouissement personnel de chacun. Son rôle social a été largement oublié. Déjà en 1971, les évêques estimaient qu'il n'était reconnu que rarement et insuffisamment par les pouvoirs publics. Voilà, dans un très beau texte sur la justice dans le monde. Au numéro 28. Au fil des textes, il est possible de relever quelques facettes de ce rôle social. Elle assure l'éducation à la justice, constitue la première école de travail, donne les premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien. Elle apprend aussi ce que signifie aimer et être aimé, et ainsi ce que veut dire concrètement être une personne humaine. Alors, il y a plusieurs numéros, hein, je passe. Elle ouvre sur un engagement, je cite là, un engagement concret de solidarité et de charité qui commence par le soutien mutuel des époux, puis s'exerce par la prise en charge des générations les unes par les autres. Hein. Il y a ce soutien de solidarité, ce soutien mutuel, fraternel. Une solidarité qui risque de ne plus être garantie lorsque les familles deviennent trop petites. Voilà, donc il y a plein de points d'attention, de vigilance que l'Église soulève, écrit, encourage. Le discours social met donc en valeur toutes les compétences cachées de la famille. Ce sont les bienfaits d'une éducation qui a permis de former des adultes responsables, capables de nouer des liens, de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur vie personnelle et professionnelle. Les bienfaits de la création de réseaux multiples par lesquels la solidarité peut prendre forme. Ce rôle social de la famille est à redécouvrir et à soutenir, mais il sera désormais assumé autant par les hommes que par les femmes. Alors on voit bien, depuis le texte 1893, là, et aujourd'hui, ben, on voit comment les différents papes s'appuient les uns sur les autres, hein, sur la pensée, sur leurs réflexions, sur l'évolution du monde, et puis ils essayent d'éclairer, hein, vraiment nos consciences pour vivre notre vie de baptisé au mieux. Hein. Et ça s'adresse pas qu'aux baptisés. Ces textes-là, la pensée de l'Église, elle s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui veulent écouter un peu, et voilà. Jusqu'à un passé, alors là j'en arrive à une considération sur la famille, la femme et l'homme. Vous allez voir, parce qu'il y a une progression, il y a une évolution. Jusqu'à un passé récent, ce rôle social revenait principalement aux femmes. Et c'est évident, hein, puisque c'était à elle qu'était confiée l'éducation des enfants et de veiller, bien sûr, à ce que chacun puisse s'épanouir au mieux, hein, dans le monde dans lequel il grandissait. La réalité économique aux hommes. Aussi, dans son approche, surtout patrimoniale, l'Église appréhende la famille par l'homme chef de famille, à qui il incombe de nourrir femme et enfant. Voilà, on voit bien toute la progression au 19e et puis au 20e. Le travail de la femme, lui, n'est pas examiné sous l'angle économique comme celui de l'homme. Il est apprécié par rapport à son rôle social et ses obligations en tant qu'épouse et mère. L'évolution des mentalités peut être retracée à travers le discours de l'Église. En 1891, l'Église cherche d'abord à protéger les femmes et les enfants d'un travail trop dur ou trop pénible. Et c'est très beau, hein, ce qu'on peut lire. Alors, je vous lis deux citations, là. « Ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de l'âge ne peut équitablement être demandé à une femme ou à un enfant. L'enfant, en particulier, et ceci demande à être observé strictement, ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge aura suffisamment développé en lui les forces physiques, intellectuelles et morales. » Un peu plus loin, « De même, il est des travaux moins adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques, ouvrage d'ailleurs qui sauvegarde admirablement l'honneur de son sexe et réponde mieux, par nature, à ce que demande la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille. » Voilà, je continue. Les mêmes considérations ont cours encore dans les années 1930. Vous voyez, on est passé de la fin du 19e au début, hein, premier tiers du 20e. Quand Pie XI indique ceci, il n'est aucunement permis d'abuser de l'âge des enfants ou de la faiblesse des femmes, c'est à la maison avant tout, ou dans les dépendances de la maison, et parmi les occupations domestiques qu'est le travail des mères de famille. C'est donc par un abus néfaste et qu'il faut à tout prix faire disparaître que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent, avant tout l'éducation des enfants. Un peu plus loin, les moments, alors c'est pas une citation, je reviendrai une autre citation après. L'émancipation de la femme, telle que promue par le communisme, est sévèrement condamnée par l'Église en 1937. Il faut attendre 1963 pour voir Jean XXIII affirmer l'égalité des droits et des devoirs des époux et une appréciation positive de l'entrée de la femme dans la vie public. Jean-Paul II, nettement plus loin dans le temps, en 1981, mettra le travail accompli par les femmes dans la maison et pour l'éducation des enfants au même rang que tout autre travaille et plaidera pour une revalorisation sociale des fonctions maternelles, tout en insistant sur les besoins des enfants. C'est le libre choix de la femme qu'il valorise, dans la ligne du Concile Vatican II. Voilà, dans Gaudium et Spes, au numéro 67, au chapitre 3, il plaide pour une adaptation du travail aux exigences de la famille. Alors, je lis une citation. La vraie promotion de la femme exige que le travail soit structuré de manière qu'elle ne soit pas obligée de payer sa promotion par l'abandon de sa propre spécificité et au détriment de sa famille dans laquelle elle a, en tant que mère, un rôle irremplaçable. L'Église a aussi toujours réclamé un temps de repos, d'abord pour restaurer les forces du travailleur et respecter le jour du Seigneur. Alors on voit ça dans plusieurs numéros. Aussi, pour favoriser l'unité de la famille, dont les membres doivent pouvoir se retrouver fréquemment dans les joies paisibles de la vie en commun. Enfin, avec l'apparition des loisirs, pour entretenir une vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Enfin, Donc c'est Gaudium et Spes, numéro 67. La conciliation entre vie professionnelle et vie privée est un autre fil rouge qui traverse le discours social. Mais cette conciliation n'est pas pensée au service de l'épanouissement de l'individu. Elle a une visée plus collective, l'éducation des enfants et le vivre ensemble. Alors après, j'avais tout un volet sur la famille, une affaire publique et privée. Alors, ça va, vous suivez encore à peu près? Vous n'êtes pas gelé, hein? La famille assure donc un rôle social indispensable, tant à travers l'éducation des enfants que la solidarité mise en œuvre. Et à ce titre, elle doit être protégée par les pouvoirs publics. L'Église a régulièrement insisté sur la nécessité d'une véritable politique familiale, en dernier lieu, on voit ça, tout en interdisant à l'État d'intervenir dans les domaines qui relèvent, selon elle, de sa seule responsabilité ou de ceux des époux. Léon XIII estime que le mariage est du ressort exclusif de l'Église et conteste la compétence de l'État d'organiser un mariage civil. Il admet l'intervention de l'État en cas de défaillance de la famille ou de violation grave des droits. Mais l'État ne saurait absorber l'autorité paternelle. Il n'y a pas de substitution, quoi. Un peu plus loin, l'Église a également toujours insisté sur la liberté et la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants ou leurs enfants en accord avec leur foi. Elle demande à l'État de soutenir le mariage et la famille par des mesures d'ordre économique, social, culturel et moral, de nature à en consolider la stabilité et à lui faciliter l'accomplissement du rôle qui lui incombe. Mais elle interdit, l'Église a interdit formellement l'État et à l'État d'intervenir dans le contrôle des naissances. Donc, on est dans les années 60, une question qui va prendre une place importante à partir donc de ces années-là, 60. Alors, la famille, bien entendu, on sait que c'est le lieu de transmission de la vie, hein. Donc, je vais assez vite. Alors là, il y a plusieurs grands contextes des papes, à partir de 1965, entre autres, dans Gaudium et Spes, on voit ce texte vraiment très important, prend en la défense en rappelant les caractéristiques. Donc, la famille, c'est une communauté de vie et d'amour. Le consentement libre et irrévocable des époux, l'exigence d'une entière fidélité et l'accueil des enfants à naître. Et le texte dit expressément, je lis, « En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de l'homme. » Un peu plus loin, quand l'incertitude sur les conditions de travail en raison, c'est Benoît XVI qui dit ça, hein, en raison des processus de mobilité et de déréglementation devient endémique, surgissent alors des formes d'instabilité psychologique, des difficultés à construire un parcours personnel cohérent dans l'existence, y compris à l'égard du mariage. Plus récemment, Benoît XVI affirmait « Considérer l'augmentation de la population comme la cause première du sous-développement est incorrect, même du point de vue économique. » Un peu plus loin, « Il demeure évidemment nécessaire de prêter l'attention due à une procréation responsable qui constitue, entre autres, une contribution efficace au développement humain intégral. » En effet, la responsabilité interdit aussi bien de considérer la sexualité comme une simple source de plaisir que de la réguler par des politiques de planification forcée des naissances. Dans les deux cas, dit Benoît XVI, on est en présence de conceptions et de politiques matérialistes où les personnes finissent par subir différentes formes de violence. À tout cela, on doit opposer dans ce domaine la compétence primordiale des familles à celle de l'État et à ses politiques contraignantes, ainsi qu'à une éducation appropriée des parents. Au niveau collectif, l'Église veille à protéger les familles d'une intrusion de l'État. Alors, pensez pas que franco-français, quoi. C'est pour le monde entier, hein. Donc, à protéger les familles d'une intrusion de l'État dans l'intimité conjugale et oppose la responsabilité des époux à celle de l'État. Au niveau individuel, la juste liberté du couple reste une liberté surveillée de près par l'Église. Gaudium et Spes rappelle, dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d'être des éducateurs, les époux savent qu'ils sont les coopérateurs de l'amour du Dieu créateur et comme les interprètes de Dieu. C'est magnifique ce texte-là. Alors, je vais un peu plus loin. J'arrive maintenant, je vais finir par ça, sur le regard nouveau, mais qui s'inscrit dans la suite, du pape François. Les discours sur la morale sociale et sur la morale individuelle ont subi assez curieusement un traitement très différent dans l'Église. Le discours social est toujours parti de l'observation de la réalité et cherche, à partir de ses principes, comment le message du Christ lui-même peut aujourd'hui encore féconder cette réalité. Dans le domaine de la famille et de la sexualité, l'Église est toujours partie de la théorie, d'un idéal certes très beau, mais aussi très éloigné de la réalité de la vie des familles. L'Église a plaqué l'idéal sur la réalité, laissant quelque peu désemparés tous ceux et celles qui, pour diverses raisons, ne pouvaient s'y conformer. Un fossé s'est ainsi créé et creusé au fil des années, entre le discours de l'Église sur la famille et la vie des familles. C'est ce fossé que le pape François cherche à combler avec une nouvelle approche de la famille, une approche qui part justement de la réalité. La conviction que la réalité est plus importante que l'idée est l'un des quatre principes que le pape avance dans son exhortation « Evangelii Gaudium » pour orienter le développement de la cohabitation sociale, et dont il dit expressément qu'ils sont liés par des tensions bipolaires. Alors je fais une petite citation. La réalité est, tout simplement, l'idée s'élabore. Entre les deux, il faut instaurer un dialogue permanent, en évitant que l'idée finisse par être séparée de la réalité. Ce dialogue, cette fécondation mutuelle entre réalité et idée caractéristiques de la pensée sociale, et ce dialogue a été étendu par le pape aux questions de morale individuelle. Avec le synode sur la famille en 2014 et en 2015, les fidèles ont été invités à répondre à deux reprises à de longs questionnaires qui ont permis de faire un état des lieux de la situation actuelle des familles et des défis auxquels elles sont confrontées. Cette réalité a servi de base aux discussions entre évêques, membres du synode, et se retrouve largement reprise dans le chapitre 2 de l'exhortation post-synodale à Maurice Laetitia, qui se termine en indiquant qu'un, je cite, « stéréotype de la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il en dégage un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joie, de drames et de rêves. » Voilà, je conclue assez rapidement. Les différents aspects de la famille que la pensée sociale met en lumière se retrouvent ainsi dans les textes du pape François. Il y en a plusieurs. Il y a la dimension économique, l'importance du mariage pour la société, comme pour les époux, le besoin de soutien public à la famille et surtout le rôle social de la famille. Mentionné déjà dans Laudato Si, ce rôle est développé donc dans ces textes-là où le pape indique clairement que la fécondité d'un couple va plus loin que la procréation, que Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde domestique et que la participation à l'Eucharistie implique de s'occuper aussi du sort des pauvres. Enfin, le pape François ne demande pas seulement de partir de la réalité des familles, mais aussi de jeter un regard nouveau sur celle-ci. Il s'agit de voir dans cette réalité non pas la conformité ou la non-conformité à la norme, mais comment l'esprit y est à l'œuvre. Ainsi, le pape écrit-il, « Je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'Esprit répand au milieu des fragilités. » Je finis, dernière ligne. Le pape François unit donc les approches de la pensée sociale et de la morale individuelle en invitant à partir toujours de la réalité et de se poser sur elle le regard bienveillant et miséricordieux de Dieu lui-même. Pour les familles, c'est un changement de paradigme, dit le pape François. Voilà, je vous propose pour terminer de confier nos familles, cellules vitales de la société, comme dit la doctrine sociale de l'Église, dans le compendium au numéro 5, enfin dans ce chapitre 5, confions au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie toutes nos familles, toutes les familles du monde entier, celles qui sont en bonne santé, celles qui sont cabossées, celles qui sont en grande souffrance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur bénisse nos familles, bénisse les époux, tous ceux qui cherchent une voie fidèle à l'Évangile dans le célibat, en particulier les prêtres, les religieuses et les religieux, les moines et les moniales, qui sont des beaux signes de fidélité dans notre monde. Merci Seigneur pour toutes les vocations que tu nous donnes de contempler dans ce temps de carême qui nous mène à la lumière de Pâques. Amen. Merci.